Et le psaume que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le psaume 127, l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. J'aimerais vous faire la lecture donc, de ce psaume, psaume 127. Cantique des degrés, les cantiques des degrés, ce sont les cantiques qui étaient chantés quand les pèlerins montaient à Jérusalem. Ils abandonnaient leurs activités, leurs maisons, leur bétail, et il y avait les enfants qui étaient de corvée certainement, et hop, ils montaient à Jérusalem pendant plusieurs semaines. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Ce psaume est écrit par Salomon, comme c'est noté ici. Il est le fils de David, Salomon. Il est héritier de la couronne d'Israël. Il a connu un règne extraordinaire de 40 ans de paix. Il a construit le temple, un palais merveilleux. Il a aussi fortifié les murailles de Jérusalem. Il a écrit de nombreux proverbes et le livre de l'Ecclésiaste également. Et dans ces deux livres notamment, comme ici dans ce psaume, eh bien, il a écrit, il évoque cette crainte de travailler en vain. Cette crainte de travailler pour du vent. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Est-ce que vous avez déjà travaillé en vain? Je crois que malheureusement, ça nous est arrivé certainement à chacun. Vous passez des heures à décoller la tapisserie d'une pièce là sur un mur, et puis vous voyez la chose, ça part en tout petits morceaux là, et vous peinez, vous y passez toute votre journée, à la fin il vous reste encore un petit coin, et puis quelqu'un il vient, il dit « Oh, laisse tomber, on va casser le mur !» Quoi? Quoi? Vous avez déjà veillé en vain? Il y a un ami qui doit passer chez vous, puis vous l'attendez, pas trop préciser l'heure, mais il tarde, finalement vous tombez dans le canapé, vous endormez, à 4 heures du matin, vous avez un peu froid, alors vous voyez qu'il n'a toujours pas arrivé, vous montez vous coucher, puis à 6 heures, vous êtes réveillé par un SMS. Désolé, je ne viendrai pas, mais je viens demain, promis. Vous avez attendu en vain, vous avez veillé en vain. Et dans ce domaine, plus on attend, et plus le travail est difficile, et plus on aime, et moins on aime, plus on déteste travailler en vain. Ce psaume ici, il est écrit pour nous faire comprendre comment ne pas travailler en vain, comment ne pas vivre notre vie en vain. Et la vérité qui est énoncée ici, c'est que dans toutes les sphères de l'existence, seule la bénédiction et la providence divine garantissent la réussite. Aujourd'hui, c'est dimanche, veille de rentrée des classes. Toute cette semaine, les élèves vont commencer une nouvelle année avec des nouveaux professeurs, avec un nouvel établissement, nouveaux camarades. Pour les autres, c'est septembre, et septembre, c'est la reprise avec peut-être un nouveau travail pour vous, peut-être des nouveaux collègues, nouvelles responsabilités ou un nouveaux objectifs. Pour notre Église, c'est aussi une rentrée avec des nouveaux projets, des nouveaux ministères, une nouvelle organisation. D'une manière plus générale, on est à l'œuvre, on a entrepris une œuvre où on va bâtir quelque chose, notre vie. Certains bâtissent littéralement leur maison avec leurs mains. Mais pour tous, eh bien, on cherche à bâtir une maison, plutôt un foyer. Et puis, élever une des enfants, fonder une famille. Ça, c'est une grande œuvre. C'est l'œuvre d'une vie. Et il y a de quoi s'angoisser avec tout ce qui pourrait arriver. Et puis surtout, on ne voudrait pas avoir travaillé en vain. Pas avoir travaillé pour rien. Et pour ne pas bâtir en vain, Salomon nous invite à bâtir avec Dieu, à se reposer sur Dieu, et puis à ne pas négliger notre héritage. Retenez ça. Bâtir avec Dieu, se reposer sur Dieu, et ne pas négliger notre héritage. Bâtir sur Dieu, c'est le verset 1 qui dit ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous sommes tous appelés à bâtir. Nous construisons des entreprises, des maisons, des familles. Et tout cela, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et la première des choses qu'il faut avoir en tête, pour ce début d'année aussi, les parents ne m'ont pas mandaté, je vous rassure, les plus jeunes, mais de travailler. Il faut travailler. Il faut s'appliquer, il faut s'investir et il faut le faire de tout son cœur. Ça nécessite toujours bien des efforts de bâtir. Il y a du travail, il y a de la sueur. La Bible, elle ne récompense jamais l'oisiveté ni l'imprévoyance. Dieu a promis de nous aider dans notre faiblesse, mais il n'a pas promis de nous aider dans notre paresse. Salomon, il écrit dans les Proverbes à son fils, et il dit « Va vers la fourmi, paresseux, et deviens sage. » Et donc, nous aussi, on doit apprendre à travailler. Et ce psaume ne glorifie pas la négligence, ne dénigre pas l'effort, même quand il dit, au verset 2, c'est un peu fort pour moi le retour, je crois. Verset 2, quand il dit « En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il en donne autant à son bien-aimé pendant leur sommeil. Son bien-aimé, c'est quelqu'un qui travaille. D'accord ? C'est quelqu'un qui s'investit. Comment les efforts d'un homme pour construire sa maison ou sa vie ou son foyer, son entreprise, se révèlent futiles, vides ? Comment ces efforts peuvent être rendus vains, stériles ? J'ai noté quatre choses, peut-être vous en trouverez d'autres. La première, c'est de bâtir à tout prix. Si vous voulez bâtir à tout prix, c'est-à-dire quand ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins, quels que soient les moyens pour y parvenir. Bâtir à tout prix, parfois c'est la vie professionnelle qu'on veut bâtir à tout prix, en sacrifiant la vie de famille, en sacrifiant sa santé, en sacrifiant toutes sortes de choses, ses bien-aimés. Son église, ses relations. Plus rien ne compte que la réussite. Bâtir à tout prix, c'est parfois aussi bâtir en sacrifiant son honnêteté ou son intégrité. Prendre des voies tortueuses pour pouvoir réussir, ou pour pouvoir arriver à ses fins. C'est-à-dire tricher à l'école, copier ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi tricher à son travail, tromper ou voler. Toutes ces voies-là, c'est bâtir à tout prix. Et ça, c'est catastrophique. Ce qu'il nous faut, c'est s'inquiéter de bâtir avec l'Éternel. Et bâtir avec l'Éternel, c'est véritablement bâtir en accord avec tous les principes de la parole de l'Éternel. Ne laissez pas les versets qui vous chagrinent de côté. Non, mettez-les en pratique. La deuxième manière de bâtir en vain, c'est bâtir pour sa jouissance égoïste. Quand le plaisir et la jouissance personnelle dictent votre manière de vivre. Quand les autres n'entrent plus en ligne de compte. Quand on fait les choses sans se soucier des autres. Quand on ne pense qu'à soi, quand on utilise même les autres pour notre profit, plutôt que de les servir. Non, on devrait bâtir avec cette perspective de bâtir avec joie. Et faire de notre joie le bien que procurent les fruits de notre travail à d'autres. bâtir, une troisième manière de bâtir en vain, c'est bâtir pour sa propre gloire. Quand on fait les choses afin de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est moi qui ai réussi, c'est mon travail, c'est ma force, c'est mon intelligence qui a réussi, avec lesquelles j'ai réussi à faire ces choses. » Quand notre plus grande crainte, c'est ce que penseront les autres si jamais j'échouais. Au lieu de reconnaître que c'est par la grâce de Dieu, de reconnaître que c'est lui qui m'a donné la force, l'intelligence, la capacité, la sagesse. Et c'est lui dire notre reconnaissance. Ça, c'est pour éviter de bâtir en vain. Quatrième manière de bâtir futilement, c'est bâtir pour ce temps seulement. Vous savez, on peut vite être absorbé et l'idée, c'est juste ce temps-là, ces quelques années sur lesquelles nous sommes sur cette terre. Quand nous faisons tout pour cette vie terrestre, quand l'éternité ne compte pas, quand nos choix ne sont pas dictés par la perspective du royaume éternel, quand cette pensée... Quand la pensée de qu'un jour je vais me présenter devant Dieu et je devrais rendre compte de mon administration, c'est-à-dire de la gestion de ma vie, et que là, j'y ai jamais pensé. J'ai jamais pris mes décisions en fonction de ces choses-là. Ça signifie que j'ai bâti en vain. Rien ne va passer dans l'éternité. Et ça devrait être une pensée qui nous anime pour qu'on puisse vivre pleinement, pour qu'on puisse glorifier le Seigneur et travailler pour les choses qui ont une valeur éternelle. Bâtir avec l'Éternel, c'est au fond, c'est bâtir avec l'approbation de l'Éternel. L'approbation de l'Éternel sur les plans que l'on fait, sur les moyens que l'on utilise, mais aussi avec le souci de sa gloire et du bien des autres, tout cela pour aujourd'hui et pour l'éternité. Une année s'ouvre comme une page blanche pour chacun d'entre nous. Comment allons-nous bâtir ? Bâtir, c'est vraiment une saine occupation, seulement si Dieu est avec nous. La deuxième pensée dans ce psaume, c'est au verset 2, c'est « se reposer sur Dieu ». Lorsqu'on construit, que l'on y met tellement d'efforts, de moyens financiers, de temps, que l'on a bien des sujets d'inquiétude, parce qu'il y a tellement d'éléments que l'on ne maîtrise pas. Vous pouvez construire votre maison, je sais que ça parlera à quelqu'un, et puis une tempête arrive, puis un déluge d'eau tombe, et puis vous n'avez pas encore mis le toit. Ça, vous ne maîtrisiez pas. Ce n'était pas indiqué par la météo. Parfois, c'est les fondations, un glissement de terrain. Vous ne pouviez pas savoir ça. Parfois, c'est un accident. Vous ne pouviez pas le deviner, vous ne pouviez pas le prévoir. Parfois, c'est des délais qui prennent beaucoup plus de temps. Il peut y avoir des erreurs humaines, des délais non tenus. Vous connaissez le sketch de... sur la réunion de chantier de Muriel Robin, ceux qui connaissent, elle a fait à la fin une toute petite dépression parce que rien ne marchait comme elle voulait. Tout semblait être contraire. Elle ne maîtrisait rien. Et dans le domaine professionnel, familial, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que nous ne maîtrisons pas et que nous pouvons vivre sans cesse dans l'anxiété. Il y a cet homme-là, Edward Murphy, qui est un ingénieur américain en aérospatial. Il a établi cette loi, la loi de Murphy. On connaît, souvent on l'utilise pour rigoler, mais c'est une loi quand même qui est un peu plus sérieuse que ça. Il dit, tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal. Ou selon une variante plus détaillée de cette loi, il dit, s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie et pour que la catastrophe arrive. Donc, quand vous avez compris cette loi de Murphy, que les catastrophes arrivent, eh bien, c'est difficile de prendre du repos. Quand il y a un problème et que vous lui dites, bon, écoute, laisse tomber, tu verras ça plus tard, tu verras ça demain. Comment ça? J'ai absolument pas l'intention de dormir. Et comment est-ce que je pourrais dormir avec ce qui m'arrive? C'est difficile, hein? On imagine tous les scénarios, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard pour répondre à toutes les éventualités. Quelque part, on est content que ceux qui conçoivent et fabriquent nos avions réfléchissent comme ça et appliquent la loi de Murphy pour pallier à toutes les catastrophes possibles. Mais vous comprenez qu'il y a une limite à cette manière de concevoir la vie. Tout n'est pas sous notre contrôle. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il y a un moment où l'on a fait ce que nous devions et on peut dormir et se confier en Dieu pour tout le reste. Et cette vérité, elle n'a pas pour but d'encourager la paresse, hein, ou l'inactivité, ou le fatalisme, ou la négligence, mais au contraire, elle nous incite à faire confiance. Elle nous incite à la sérénité, à la tranquillité de l'âme. Et elle nous fait renoncer à un travail frénétique. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi est-ce que Dieu nous a créés avec ce besoin de dormir? La Bible dit que lui, il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort jamais. Il dit aussi qu'il nous a créés à son image et pourtant, il a mis dans notre ADN le besoin de dormir. La nécessité de tomber dans l'inconscience. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? On dort presque un tiers de notre temps. C'est beaucoup. Hein, c'est pas simplement quelques minutes le dimanche matin pendant le message. Non, non, c'est plusieurs heures par jour. C'est plusieurs heures par jour. C'est un tiers de notre temps. Ça veut dire que quand vous avez 60 ans, vous avez dormi 20 ans. Il y en a à 25 ans qui ont déjà dormi 20 ans, mais ça, c'est pas normal. Hein. Il faut pas faire. Je plaisante. Hein. Non, on a besoin de dormir. On a vraiment besoin de dormir. Et ça, c'est quelque chose d'important, ça. On a besoin de dormir. Et on a besoin de dormir. C'est comme une espèce de parabole que Dieu a écrite dans nos vies, pour toute l'humanité, pour qu'on puisse laisser les choses, perdre le contrôle, qu'on puisse simplement les confier à Dieu. Quelles que soient nos responsabilités, nous devons plusieurs heures par jour abandonner nos affaires et nous en remettre à celui qui ne sommeille ni ne dort, savoir Dieu lui-même, qui contrôle toutes choses. Notre besoin de dormir, il nous pousse à nous confier en Dieu, à nous reposer sur sa souveraineté, sur son contrôle. Et il nous contraint de cette manière à lui faire confiance. Quand vous vous couchez, vous pouvez faire cette prière. Seigneur, je te confie les affaires de ce monde. Il les a toujours en main. Mais quand parfois on croit qu'on a besoin de tout contrôler, de tout faire, on peut dire, non Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de ma vie. Celui qui ne fait pas confiance, il se lève, il se couche tard pour tenter de contrôler toute chose et puis il s'épuise. Il vit dans l'anxiété permanente. Mais c'est en vain parce que Dieu en donne autant à son bien-aimé, c'est-à-dire à celui qui se confie en lui pendant qu'il dort. Et si Dieu dirige nos vies, notre travail ne sera pas vain. C'est sûr. Quelles que soient les circonstances, notre travail ne sera pas vain. Comment pourrait-il en être ainsi? Même nos échecs deviennent des leçons pour nous rendre plus semblables à lui. Marie-Claude, elle l'a bien expliqué. Son cœur s'est ouvert aux choses les plus importantes, à Dieu lui-même, au travers d'une épreuve. Personne ne souhaite une telle épreuve. Ce n'est pas sur notre liste de choses à faire dans notre vie, ça. Et pourtant, Dieu est capable de prendre une telle situation de souffrance, de difficulté, et de la tourner pour sa gloire, de se révéler à nos cœurs, de nous sauver, de nous amener à le connaître et à vivre intimement avec lui. Et c'est aussi ces choses-là qu'il faut comprendre pour pouvoir lui laisser. Nos échecs deviennent des leçons pour nous rendre plus semblables à lui, pour nous rendre plus humbles, plus dépendants. Tout travail, toute peine, tout effort prend du sens avec Dieu parce qu'il travaille en nous. Il travaille en nous. C'est lui qui doit faire ce travail. Dormir, c'est une nécessité et qui nous pousse à nous confier en celui qui ne dort pas. Et puis enfin, dans les versets 3 à 5, nous sommes encouragés à ne pas négliger notre héritage. Vous voyez, il dit ici, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. » Des fils, selon une autre traduction, « Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. » Oui, des enfants sont une récompense. Salomon, il dit en quelque sorte, on pense à construire des maisons, on pense construire des murs, des carrières professionnelles, mais le véritable héritage, la véritable richesse, ce sont nos enfants. Un héritage, c'est un bien que l'homme a reçu sans travailler. On n'a rien fait pour un héritage. Les enfants sont un cadeau de Dieu, pas un salaire, pas un dû. Il dit ici, c'est une récompense. Les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Et ceux qui ont des difficultés à en avoir le savent mieux que quiconque. Les enfants sont un héritage, pas un problème. Vous avez déjà entendu cette expression ? Ah, il y a le problème avec les enfants, là. On voudrait faire ça, mais il faut encore régler le problème des enfants. C'est-à-dire, on a un problème, c'est des enfants. Non. Les enfants ne sont pas un problème. Les enfants sont une bénédiction, une récompense. À la fin de la journée, hier, avec mon épouse, on a fait des travaux chez nous, hier après-midi. Et toute la famille s'y est mise. Fait tout un mur. En fait, on a surtout abîmé tout un mur, disons. Mais à la fin de la journée, ma femme, Anne-Sophie, a dit « Oh, c'était un super après-midi. » Et oui, c'était un super après-midi qu'on a passé. Le mur est en vrac, si on peut dire, mais on a fait ça en famille. On a fait ça ensemble. Ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé d'être tous ensemble et de faire un truc ensemble. La chose la plus importante, ce n'est pas notre mur, c'est d'être ensemble. Vous savez, rapidement, les choses semblent plus précieuses que les hommes. C'est faux, on le sait. Les personnes sont importantes, pas les choses. C'était une super après-midi, ouais, parce qu'on a passé un super moment. C'est ça, la vérité. Vous savez, on parle aussi des retraites qu'il nous faut prévoir. Et ce dont on a le plus besoin quand on est à la retraite, c'est des visites, c'est des amis, c'est des gens qui nous sont proches. C'est ça dont on a besoin. Vous savez, pour avoir des amis à notre retraite, il faut avoir tissé des liens pendant notre vie, ici-bas. Il faut s'être intéressé aux gens, et non pas aux choses seulement. Il y a des gens qui se retrouvent seuls à la fin de leur vie. Ce n'est pas systématiquement la raison, mais pour certains, c'est simplement parce qu'ils ont simplement fait le vide autour d'eux. Ils ont des enfants, mais les enfants ne veulent plus les voir. Ils ont eu des amis, mais ils se sont fâchés avec eux. Et la chose, c'est qu'on doit investir, et investir encore, dans ce qui est vraiment précieux, notre héritage, les gens. Au verset 5, il dit, il faut en avoir plein son carquois, hein, des enfants. On redoute d'attaquer un guerrier quand il est bien armé. Ainsi, les gens mal intentionnés, ils regardent à deux fois avant de vous attaquer, quand un homme est accompagné de toute une tribu de fils. De plus, c'est pas une, je ne veux pas tirer un enseignement ici qu'il faut avoir de nombreux enfants. Je pense que c'est une bénédiction d'en avoir de nombreux, mais il est parlé d'un carquois, il ne nous dit pas du nombre. Peut-être le carquois est petit, mais il peut être plein quand même. Et puis, on sait que c'est pas le bonheur d'un homme ne dépend pas du nombre de ses enfants, mais de la présence d'un fils particulier, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et si jamais vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas pu en avoir, vous savez que vous pouvez avoir un fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un frère, un ami qui vous accompagne, celui qui ne vous lâchera jamais, qui sera tous les jours à vos côtés. C'est lui seul qui peut repousser tous les ennemis qui viennent frapper à votre porte, que ce soit le découragement, le péché, la crainte, la mort. Jésus seul a pu les mettre en déroute. Et donc c'est de cet ami-là dont il faut remplir son carquois. Avant tout, de l'avoir pour compagnon, pour ami, pour frère, pour maître, pour seigneur, et marcher avec lui. Alors voilà, pour ne pas bâtir une vie et vivre en vain, il nous faut Jésus. Jésus qui travaille avec nous. Jésus qui veille quand on dort, qui nous défend quand on est oppressé, qui nous relève quand on tombe. C'est lui notre héritage qui nous est donné par grâce. C'est notre relation avec lui qui nous procure les plus grandes joies et qui nous garantit de ne pas travailler en vain. De grâce, c'est début d'année, partez, mais partez avec Jésus.